bonsoir. Merci à tous d'être présents pour ce façon de faire, façon de voir consacré au travail de Roger Domind. Alors c'est une première pour ce soir, pour les habitués, les gens qui ont l'habitude de venir à ce genre de soirée ici au centre. Eh bien l'artiste n'est pas seul ce soir, comme vous pouvez le constater. Ils sont en duo, alors je devrais dire en stéréo, puisque c'est un petit peu comme ça que l'a voulu Roger, un duo, un dialogue complice entre Roger Domind et Ben Durand, son galeriste et ami, si je ne me trompe. Mm-hmm. Voilà. Donc Roger Domind est graveur, dessinateur, il a été professeur à l'Académie des Beaux-Arts de la ville de Bruxelles. Il expose régulièrement son travail sous forme d'exposition personnelle, tant en Belgique qu'à l'étranger. J'en profite pour faire une petite parenthèse, c'est que Roger exposera dans quelques jours en Suisse.
Exactement, à Lausanne.
Près de Lausanne, à la galerie du Château.
Exactement, à Renan.
À Renan.
C'est dans la banlieue de Lausanne.
Roger est un habitué du centre, puisque le centre lui a consacré une rétrospective en 2001.
Oui, exactement. Voilà. Et depuis, le centre est fort discret en ce qui me concerne.
Je vous transmettrai. On se rattrape un petit peu aujourd'hui.
Bien.
Alors, Ben
c'est
Durand
assez d'apprécier.
Ben Durand est historien de l'art, écrivain, auteur de bandes dessinées.
Il y a longtemps, oui. Il y a longtemps, oui. Et je n'ai pas de reproche à faire au centre de la gravure.
Pas encore.
La soirée ne fait que commencer. Il était également le fondateur de la galerie Quadri, qui propose de temps à autre également le travail de Roger Domind, entre autres. Et si je ne m'abuse, j'en profite aussi pour faire une parenthèse concernant Ben Durand. Il y a un vernissage demain, si je ne me trompe pas.
Oui.
Chez Quadri, une exposition qui s'appelle Bestiaire.
Voilà.
Voilà.
Et dans laquelle il y aura quelques gravures de Roger Domind.
Voilà. Très bien. À bon entendeur. Alors, avant de les laisser partir en roulis, parce que je vous avoue que moi-même, je ne sais pas comment va se dérouler la soirée. J'ai préparé quelques questions, quelques interventions. Vous voyez que sur les deux tables qu'on a préparées, il y a une sélection du travail de Roger qui balaye depuis les années 70 jusque maintenant. Il y a des œuvres, enfin, il y a principalement des gravures en grand format, petit format, sous forme de cartes de vœux. Et il y a aussi une partie du travail de Roger Domind que je voulais montrer, qui est peut-être plus intime et moins connue du public, ce sont les enveloppes dessinées, puisque, à ma connaissance, elles n'ont jamais... elles ont été montrées, mais je veux dire pas de la même manière qu'une expo de gravure.
Oui, quand même. Elles ont été exposées en Suisse, à la Rue Tokiana, au Monde Bannière Mamon.
Et à Loudun.
Et à Loudun.
Alors, je voulais en montrer quelques-unes ce soir, parce que c'est vrai que le rapport avec l'enveloppe et le courrier que les destinataires reçoivent est évidemment différent de celui que le public peut avoir avec une gravure quand il vient voir une expo.
En fait, les enveloppes, j'essaie toujours de les personnaliser un peu, mais ce qui m'importe, ce qui pour moi est important, c'est quand même la lettre, c'est-à-dire ce qu'il y a dans l'enveloppe. Le dessin sur l'enveloppe, c'est un petit plus. C'est une manière d'être déjà en contact avec la personne qui va recevoir l'enveloppe, en général un ami. Et voilà, c'est une espèce de proximité que j'ai comme ça avec cette personne avant que la lettre ne parte. Et très bizarrement, à part une ou deux exceptions, dont Maria, quasiment personne ne me répond. Ben me répond par courriel, le courriel électronique, et très bizarrement, il évoque parfois d'une manière très épidermique des fantasmes que je dois décoder assez difficilement. Ils tournent autour du pot, mais enfin, je vois quand même ce qu'il y a dans le pot. Mais quand nous nous voyons, nous n'en discutons jamais. C'est vraiment un petit privilège comme ça.
Tu parles de la main de ma sœur dans la culotte d'un zouave, c'est ça? Notamment. Oui.
C'est vrai. Moi, je pensais à la peinture de Van Gogh qui représente un zouave.
Voilà. C'est bien ce que j'ai reçu d'ailleurs.
Et je n'aurais pas été plus loin.
Voilà.
Mais ceci étant, je ne voulais pas effleurer davantage.
Ça reste de toute façon entre nous.
L'étendue de tes. Oui, ça restera entre nous. Bien, mais voilà. Voilà les enveloppes. Personnellement, je considère ça plutôt comme un art d'alcôve. Je n'aurais jamais imaginé que ça aurait pu susciter un intérêt au point que des expositions soient organisées. Ben voilà, j'essaie de m'imaginer la tête de mes correspondants. Ils vont être contents, pas contents, surpris. En général, ils sont agréablement surpris.
Alors moi, j'avais préparé une petite question pour lancer le débat.
Très bien.
Je vois que c'est déjà bien parti sur les enveloppes. Donc, je vais la poser quand même. Alors, je vais faire...
Si je sais répondre, je ferai avec plaisir.
Eh bien, j'espère. Alors, c'est en observant le travail de Roger Demine depuis pas mal de temps. J'ai constaté, sans doute comme vous le constaterez aujourd'hui en parcourant le travail qui est là sur la table, que le désordre et le chaos sont vraiment une constante dans l'œuvre de Roger Demine. Si je ne m'abuse, des tout débuts à aujourd'hui, puisqu'il y a déjà ce tumulte, peut-être sous une forme un petit peu différente, mais il existe toujours. Alors, pour moi, on semble, dans les gravures de Roger Dewint, être tout, comme dans ce que j'appellerais un accident suspendu. Un petit peu comme dans cette scène du film de Claude Sauté, Les choses de la vie, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, où on voit Michel Piccoli qui est victime d'un accident de voiture et qui tourne au ralenti, qui fait des tonneaux sur la route, et on est avec lui dans la voiture, au ralenti, et on vit cet accident de l'intérieur comme jamais on pourrait le vivre. Et à l'intérieur de cette voiture, les objets explosent, virevoltent dans l'air, touchent les vitres, éclatent les vitres, touchent le conducteur. Je n'ai pas dit que tu étais conducteur. Hein,
mais je conduis et j'ai fait 3 tonneaux d'ailleurs en voiture aussi, bien que je ne conduisais pas. Et ce que tu dis est tout à fait vrai. Le premier tonneau, le vide-poche se vide. Au second, ce sont les sièges qui se détachent. Et le troisième, c'est tout ce qu'il y a dans le coffre qui arrive devant. Grosso modo, c'est ça.
Alors, ça, c'était pas préparé parce que j'étais pas du tout au courant.
Non, mais en fait, je crois que je n'en ai jamais parlé non plus. Je n'envisage pas d'y faire allusion aujourd'hui. Mais comme tu en parles, puis finalement, ça vient peut-être de là.
Sur les choses de la vie.
Mais enfin, je ne crois pas. Je pense que c'est un. J'ai pas choisi de faire des gravures désordonnées. Ça s'est un peu imposé comme ça. C'est dans ce désordre que je me suis senti à l'aise. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de désordre, de violence. Là, parfois, je lisais des livres assez violents, un peu moins maintenant. Ça correspondait véritablement à un besoin. Et la gravure me convenait très bien parce que c'est le seul domaine où je n'ai jamais fait attention, en définitive, à ce qui sortait. J'avais une vague idée de ce que je voulais faire. Je mettais en scène ce que je voyais plus ou moins, et puis les images dérivaient vers autre chose. Il y avait ce que je faisais et ce qui se faisait malgré moi, et dont je devais finalement me contenter. Et c'est comme ça que les images, chez moi du moins, se font. Alors très souvent, elles se perdent, je ne m'y retrouve plus, et puis il faut que je réfléchisse, que j'essaye de sauver la mise. Et finalement, mes meilleures gravures ont toujours été à un moment donné ratées. Et celles qui viennent trop facilement, qui sont flatteuses comme ça, quelques temps après, elles me rendent compte que c'était pas ça. C'était bien sur le moment, ça me faisait plaisir, pas d'ego, mais en général, ces gravures manquaient un peu de profondeur. Et j'ai eu des périodes comme ça où mes gravures étaient un peu moins bonnes, mais où je continuais quand même parce que par après ça redémarre. Je crois que la fabrication d'images, c'est un peu ça. Il y a des hauts et les bas. Des hauts et des bas, dans les montagnes, des côtes et des descentes.
Il y a aussi une chose qui m'a toujours frappé, et qui est assez évidente ici, c'est l'horreur du vide aussi. Hein. L'horreur vacouille, comme on dit. En général, tu fais exploser la planche, et il y a des choses partout. Alors, on en revient toujours à ce chaos que finalement tu essaies d'ordonner au fur et à mesure du temps et de l'espace.
Mais le chaos, pour qu'il fonctionne plastiquement, doit être rigoureusement, disons ça pour faire sérieux, doit être ordonné. Alors c'est vrai que j'ai une tendance à vouloir tout remplir parce que, au départ, moi j'ai commencé à travailler à 14 ans. J'ai arrêté mes études, j'ai arrêté d'être présent dans une institution scolaire à 14 ans. Et mon père avait une petite entreprise de décoration. Il faisait des travaux de peinture en bâtiment, mais très soigné. Et finalement, je construis mes gravures un peu comme je peins une porte. On peint une porte, on commence dans un coin, et puis on met de la couleur partout. Mais on ne laisse pas des blancs comme ça, parce que les clients ne seraient pas contents. Et j'ai un peu tendance à faire de la gravure comme on peint une porte, finalement. Où il faut de l'encre partout.
Et puisque tu parles de porte, je veux dire que tes gravures sont aussi une fenêtre, une ouverture vers quelque chose, non? C'est quand même un moment. Chaque gravure, je trouve, se complète aussi. Il y a une histoire qui se raconte au fil des années, au fil du temps.
Oui, peut-être bien. Ça, je ne me rends pas toujours bien compte. Je crois que les sujets évoluent un petit peu. Pour l'instant, par exemple, il me semble que j'utilise moins de couteaux qu'avant. C'est une époque comme dans la gravure, celle-là, il y a pas mal de couteaux.
Il y a beaucoup d'armes. Hein.
Et maintenant, il y en a un petit peu moins.
Elles sont passées sur les enveloppes, en fait.
Oui, parfois, oui. Ah. Mais ça rejoint des fantasmes. Hein. Moi, je n'y suis pour rien.
Non, je sais. C'est toi qui as le catalogue et c'est moi qui ai le fantasme.
Exactement.
On est d'accord. Bien.
Pardon, je vous coupe, mais ça me donne l'occasion de placer ma question. Roger De Witt était un cowboy.
Bonne question. C'est moi qui réponds ou c'est Ben? En fait, très, très bizarrement, j'ai toujours eu toujours un petit peu d'ailleurs, bien que je me rends bien compte que c'est un combat désespéré, j'ai toujours eu un grand souci de la norme. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé de rattraper la norme, d'être à la hauteur des situations. Et je n'ai jamais eu le sentiment d'être conforme, d'être... Et ça m'a toujours un peu, ce sentiment m'a toujours un petit peu poursuivi. Maintenant, je m'en fous, finalement. Mais ça m'a pris un certain temps, quand même. Ça m'a pris un petit temps.
Est-ce que tu veux dire par rapport aux autres artistes ou par rapport aux...
Non, c'est uniquement dans le contexte de ma vie personnelle, de mon éducation, qui a été très stricte. Je viens d'un milieu très, très modeste. C'est-à-dire où il y avait un sens de la discipline que même mes parents ne comprenaient pas très bien. Il y avait des interdits dont ils ne comprenaient pas très bien, même les tenants et les aboutissants, mais qui m'étaient imposés. Et peut-être que mon besoin de chaos par après correspond à cet effet d'avoir été bridé trop longtemps pendant ma jeunesse et mon adolescence.
Est-ce que créer, ça n'est pas se mettre en rupture par rapport justement à la norme? Est-ce que ce n'est pas franchir, enfin, c'est pas enfoncer des portes, briser des tabous, avancer dans des terrains inconnus?
Il est un fait évident que quand on est un peu créatif, forcément, on va un peu plus loin que ce qui existe. Et c'est un peu plus loin et déjà en dehors de la norme, puisqu'il n'est pas assimilé et digéré par la société. Donc forcément, et même sans le vouloir, personnellement, je n'ai jamais décidé d'être en dehors de la norme, de transgresser quelque chose. C'est pas du tout mon souci. Moi, je travaille dans une petite pièce. J'ai une table à dessin. Ma plaque de métal est là. Je chipote avec mon encre sucrée. Le restant, à ce moment-là, ne m'importe pas du tout.
Parce que quand on évoque aussi les créateurs que tu aimes, enfin, je parle des graveurs par exemple, que tu aimes, tu cites des gens qui sont tout à fait hors normes. Je pense à Rembrandt, je pense à Bacon, ou je pense à Goya, qui sont effectivement des pointures qui ont... élargit le champ, non? Et dans lequel
oui,
tu pourrais t'inspirer?
Évidemment, ce sont des. Mais j'aimerais bien, je crois que je suis un peu loin du compte. Ce sont des gens qui sortent tout à fait de l'ordinaire et qui sont véritablement de leur temps. Je ne crois pas du tout à l'idée que l'on propage et qui voudrait que l'artiste soit en avance sur son temps. Ça, je n'y crois absolument pas. Je crois au contraire que c'est l'ensemble de la société qui retarde un peu, qui ne se rend pas très bien compte de ce qui se passe. C'est-à-dire de pas de l'air du temps, mais des gens qui font l'air du temps. Mm-hmm. L'air du temps, par exemple, il y a un compositeur américain que j'aime beaucoup, qui est Phil Glass. Mm-hmm. Je pense qu'il est dans l'air du temps. Mais... un compositeur toujours américain comme Steve Reich, mm-hmm. je pense que lui fait l'air du temps. Mm-hmm. Et c'est une différence qui peut parfois être ténue, mais qui me semble importante. Et des gens comme Bacon ou Rembrandt ont fait l'air du temps. Tout comme Lucian Freud, d'ailleurs. Ce ne sont pas des gens qui ont... Ils sont le résultat de quelque chose, d'un type de société dans laquelle ils ont vécu. Sans doute de leur éducation aussi, comme tout un chacun. Ils se sont inspirés du passé. Bacon ne s'en est jamais caché. Rembrandt, comme il disait, Degas.
Van Gogh.
Il cite volontiers ses origines.
Et Picasso. Oui,
je trouve ça très logique, parce que de toute façon, tout le monde vient de quelque part.
Il doit passer par quelque part.
Et il doit forcément passer par quelque part. Même ceux qui se disent autodidactes, c'est un choix. C'est un choix qu'ils font de s'affirmer ainsi. Alors qu'ils ne font pas forcément...
Et ils sont la preuve aussi, comme pour toi-même, que finalement, il n'y a pas de mauvais sujet. Il y a à la limite des mauvais artistes ou des mauvais faiseurs, mais il n'y a pas de mauvais sujet. La nature morte est un beau sujet en soi.
Je ne pense pas qu'il y ait de mauvais sujet. Je crois qu'il faut, avoir un minimum de talent et de possibilités techniques pour réaliser une œuvre. Mmh. Et puis, il faut peut-être avoir une vision... Mmh. Et pouvoir traduire ce que l'on voit actuellement en images. Mmh. Et finalement, je crois que la nouveauté de l'art contemporain, c'est de pouvoir traduire en images ce que l'on voit maintenant et qui n'a jamais été vu par personne. Mmh. Rembrandt n'a jamais vu ce que nous vivons maintenant, ce qu'on voit maintenant. Même nos parents n'ont pas vu ce que nous voyons maintenant. Et c'est ce que nous voyons maintenant, agissant sur nous, qui devra en principe nous permettre de créer des images nouvelles correspondant à ce que nous vivons. Et pas des images où on va piquer dans des revues ou en s'abonnant à l'une ou l'autre.
Tu as le sentiment que ton œuvre est perpétuellement en devenir, parce que... perpétuellement, tu découvres des choses, tu regardes la télévision, tu ouvres le journal.
J'avance, effectivement, la télévision m'influence. notamment dans les petites gravures là. On voit souvent maintenant dans la télévision un type qui parle, et puis il y a des petits flashs à côté, et puis en dessous il y a le 440, le Nasdaq, tout ça qui défile. Il y a plein d'informations. En fait, on sait va suivre tout ce qui se passe sur un écran.
Simultanément, en fait.
Simultanément.
Et tu essaies de rendre ça par moment, par...
Oui, de temps en temps. C'est parfois un peu énervant, comme ça, quand on regarde la télé. Mais enfin, je prends ça un peu au second degré. J'en fais autre chose. J'en fais une image.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a chez toi le système du carnet de croquis?
Non, très peu. Très peu, parce que si je fais des sauf rarissimes exceptions, si je fais un croquis et que le croquis me plaît, et j'essaie de reproduire le croquis sur une plaque de métal, et là ça devient besogneux, ça m'ennuie, et on sent plus l'ennui que l'image.
En fait, j'ai le sentiment que tu penses en tant que graveur, donc ton image est inversée dès le départ.
Mon croquis... en fait, j'ai jamais fait attention, sauf quand je fais des portraits. Sauf quand je fais un portrait...
Mais qui est un portrait imaginaire, c'est rarement...
Pas forcément, non, j'ai fait 2-3 portraits gravés.
D'après des personnes existantes, tu veux dire?
D'après des personnages existants.
Tu penses à Erasme
Ou à Freud, ou à Lacan.
Oui.
Mais ça, ce sont des commentaires qui m'avaient été faits.
Mais sinon, pour le reste, on a le sentiment que ce sont des personnages imaginaires.
Tout à fait imaginaires, oui.
Qui ont d'ailleurs un physique assez particulier.
Oui.
Pas toujours. On n'aimera pas toujours les rencontrer au coin de la rue, là, comme on dit.
Hein. Ouais, la vie n'est pas facile pour tout le monde.
Hein. Non, c'est vrai. Convenons-en. Vanité.
Oui.
Oui. Vanité. Parce que tu en fais quand même, hein, des vanités.
Oui, de temps en temps, oui. Mais il y en a une.
Un certain plaisir à défaut d'une complaisance à. À affronter un peu l'autre,
c'est toujours l'humain, mais autrement. C'est comme les oiseaux, les animaux, parfois les gravures d'animaux, c'est parler de l'humain autrement.
Et créer, est-ce que c'est aussi apprivoiser la vie, la transformer? Est-ce que c'est la métamorphoser? Est-ce que c'est l'accepter en la transformant, ou c'est la subtilement la décliner telle qu'on la voit soi-même?
En fait... Moi, je ne voudrais pas qu'on prenne ce que je vais dire comme quelque chose de prétentieux. J'ai l'impression d'être comme une espèce d'astre. Et en même temps, autour de cet astre, il y a un satellite qui va voir ce qu'il y a derrière. Je suis à la fois l'astre et le satellite. Je découvre... tout ceci fait partie de mon quotidien. Enfin, pas partie de mon quotidien, mais ça... justement, non, ce n'est pas mon quotidien du tout. Je l'ai quand même fait, je l'ai sorti de quelque part, je l'ai sorti de ma tripe, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, c'est-à-dire 40 ou 50 ans, ce que je ressens. Enfin, il y a plein de choses qui s'entrechoquent, qui s'accumulent, qui se superposent, et ça donne des images comme ça. Et cette espèce de satellite, il m'intrigue, parce que je me demande toujours ce qu'il va encore découvrir. Que je découvre de moi et que je n'aurais pas découvert autrement.
Parce que tes couleurs ne sont pas naturalistes non plus, pas du tout.
Non.
Non.
Non, non.
C'est aussi une forme de filtre, je dirais, pour raconter l'histoire différemment. Je veux dire, parce que si on passe avec un tel tamis de couleurs, les choses changent et il y a des couleurs plus agressives, des couleurs plus passives et des couleurs plus, comment je dirais, plus qui laissent rêveuses.
En fait, je ne sais rien faire sans couleur.
Non, ça je m'en doute. Enfin, du moins, ça se voit.
J'ai essayé de faire du noir et blanc comme les vrais graveurs, disons.
Comme d'autres graveurs.
Je ne suis jamais parvenu.
Et tu n'y es pas arrivé. On a parlé de l'horreur du vire, on a dit que tu aimais vraiment mettre des choses, enfin des éléments un peu partout, mais alors il y a aussi quelque chose qui revient de façon récurrente et qui est très important chez toi, c'est l'écriture. Hein, il y a des textes depuis de nombreuses années, je crois, et qui ne sont pas systématiques, mais il y a une part de ta gravure, enfin une part importante dans ta gravure qui ressort d'un texte, d'une écriture, et qui est sans doute liée d'une part à ce que tu as lu, et d'autre part aussi à ce que tu veux faire passer. Enfin, si j'ai bien compris, un décalage entre le texte et l'image.
Effectivement, il y a un décalage entre ce que raconte l'image et le texte. Ici, parfois, il y a un mariage entre les deux, c'est vraiment l'exception. C'est très, très rare et je préfère plutôt qu'il y ait un décalage.
On en revient un peu au texte qui circule en dessous de l'image à la télévision.
Voire même une opposition. Mm-hmm. Alors les textes, je les prends soit dans des lectures que j'ai faites. Certains, je les compose moi-même, mais c'est relativement rare.
Beckett,
oui, bien sûr. Beckett, il y a une phrase que j'ai utilisée quelques fois d'ailleurs. Enfin, tu l'as connu, je ne dois pas te la dire.
C'est à eux que tu dois le dire. Hein.
C'est la dernière phrase de Molloy. Je ne sais pas si vous avez vu Molloy. La dernière phrase. Et alors, j'entrais dans la maison et j'écrivis. Il est minuit, la pluie fouette les vitres. Il n'était pas minuit, il ne pleuvait pas. Et j'ai trouvé à la fois le tout et son contraire, et en même temps très elliptique. Et Beckett est un auteur qui m'a vraiment impressionné, que j'ai beaucoup aimé. J'ai senti une espèce de proximité, comme ça j'avais l'impression de lire quelque chose qui m'appartenait déjà. Et un sentiment très étrange. Je crois que j'ai jamais eu un choc aussi fort en littérature qu'en lisant Beckett.
Tu m'avais dit joliment que tu avais mis ton pied dans Beckett comme tu l'aurais mis dans une pantoufle ou un soulier qui était le tien.
Exactement. Oui. Mm-hmm. Mm-hmm.
D'autres écrivains qui t'ont fait la même...
Georg Trakl.
Ah oui.
Un poète autrichien. Antonio Lobo Antunes, qui est portugais. Mm-hmm. Et j'aime beaucoup ses livres. Mais un jour, je l'avais vu chez Tropisme, c'est un homme extrêmement antipathique. Mais vraiment pas sympathique du tout, prétentieux. Il se prend vraiment pas pour une queue de poire. Et ça, j'ai trouvé...
Ça t'a gâché un peu ton plaisir, là.
C'est-à-dire que j'ai pu acheter de ses livres. Ouais. Comme quoi, il faut parfois avoir les gens. Alors, j'ai une faiblesse aussi pour la littérature japonaise. L'écrivain japonais que je préfère est Toei Kenzaburo, mm-hmm. Qui a un réalisme très fort, très contemporain. Il y a Kawabata, bien sûr, Mishima.
Murakami, non.
Ça, par contre, ça ne m'inspire pas du tout. Tanizaki. Mm-hmm. C'est un écrivain qui, à son époque, était assez sulfureux. Mm-hmm. Alors, la littérature américaine, La génération perdue, de Spassos, Hemingway, et puis la littérature américaine contemporaine, avec des gens comme Don DeLillo, ou Russell Banks, Cyril Stfett.
Et tout ça est un peu éparpillé dans tout cela ?
Là, il y a des... un ou deux textes de Don DeLillo, mais tout à fait retirés de leur contexte. Donc ça n'a plus rien à voir avec le livre. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant, à mon avis, dans le texte, c'est qu'on peut effectivement tout à fait les retirer de leur contexte. Et ça paraît tout à fait étrange, et ça ajoute à l'étrangeté de l'image. Un texte est une autre manière de raconter les choses. Finalement, l'écriture, c'est exprimer une idée avec 26 petits dessins, qui sont des compressions de dessins, 26 signes, des idéogrammes, et qui correspondent à une connaissance commune que l'on a d'une syntaxe, d'une grammaire... à une manière d'utiliser les lettres, les mots, les phrases, etc. Tandis que le dessin a un nombre illimité de signes qui lui fait appel, à une connaissance commune que l'on a de la nature. Mm-hmm. Et à mon avis, si on veut, par exemple, désigner une pomme, on peut soit écrire pomme, soit dessiner une pomme. Et ça signifie la même chose.
Oui.
Avec des moyens différents. Mm-hmm.
En Finlande, on demandera d'avoir, de posséder la langue aussi à des codes, tandis que l'autre pourrait
l'autre
être
un
signe universel.
C'est une espèce d'espéranto. Enfin bon.
En fait, tu es par essence aussi un graveur, un illustrateur figuratif. Mais en même temps, il y a toute une part quand même, je dirais, d'abstraction dans ton travail. Mais est-ce que tu as un jour essayé d'être uniquement, de même que tu m'as dit, je ne fais pas de la gravure noir et blanc, de même, est-ce que tu t'es dit, tiens, j'essaierai de faire simplement un carré ou un cercle, enfin de faire une composition abstraite, ou ça ne t'a jamais effleuré?
J'ai fait une sérigraphie non figurative. Et je me suis dit qu'il m'était suffisant. J'ai fait le tour du problème. En fait, je ne me retrouve pas très bien là-dedans. Je suis un peu dans le chemin d'un autre, dans les pompes d'un autre.
D'ailleurs, on peut apprécier, j'imagine, l'art abstrait sans pour autant le pratiquer.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, à la maison, au mur, il n'y a quasiment rien de moi, et plutôt des
œuvres
non figuratives.
Tout à fait. Il y a un beau mélange
qui
montre ton ouverture aussi vers les autres.
En fait, j'aime pas tellement voir mes affaires au mur. Il y a 2-3 gravures que j'ai faites, qui sont au mur à la maison, mais que j'ai offertes à Chantal quand je lisais ma cour. Alors évidemment, ça ne m'appartient plus. Et comme c'est sa maison, finalement, elle met au mur ce qu'elle veut.
Ce qu'elle désire mettre, oui, j'ai bien compris. Est-ce que chaque gravure n'est pas aussi, ou bien certains cycles de gravure ne sont pas liés finalement à une vie, à la vie affective, à la vie personnelle, aux événements qui la marquent? Est-ce que ça n'est pas important dans ton cas, comme ça peut l'être pour tout le monde?
J'espère bien que non.
C'est vrai?
Tu me vois vivre dans ce fatras-là?
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Ben, ressaisis-toi.
Bon, d'accord. Une autre question?
Non, c'est pas moi qui fais des questions. Peut-être qu'Olivier a une question.
Je veux bien. Je voulais parler de d'humour. C'est bien drôle, non?
L'humour. Mais je crois que tout ce qui n'est pas drôle est suspect.
Et je voudrais prendre justement une référence à une gravure qui est là. Et je voudrais que tu m'en parles un petit peu, parce qu'elle m'a fait réfléchir. C'est pour ça que je l'ai choisie. Et c'est plutôt le texte qui m'a attiré. Alors je vais vous le lire, vous l'avez fait tout à l'heure. Je l'aime beaucoup. Et il y a un texte divisé en 3 petites parties. Et alors je vous l'ai lu. Je n'ai pas entendu votre voix une seule fois. Depuis votre mort, je n'ai pas vu votre visage une seule fois. Le messager de mon esprit s'est brisé les ailes. Alors c'est surtout depuis votre mort, je n'ai pas vu votre visage une seule fois.
Ce n'est pas vraiment drôle, ça vient des légies de Kawabata. Mais là, encore une fois, le contexte de cette gravure est un peu chaotique. Je ne sais pas très bien ce que je pourrais en dire. C'est venu comme ça. Ça m'a paru évident. Tout ce qui est là-dedans me paraît évident. En fait, c'est plutôt ça. Je travaille un peu comme un énergumène, finalement. Je ne sais pas toujours très bien dire quand j'ai raison, mais je sais pertinemment bien quand j'ai tort. Dans le domaine de la gravure, il ne faut pas étendre ça trop loin, quand même. Mes gravures, en général, sont très instinctives, ce qui fait qu'il n'y a pas un plan préconçu. Parfois j'ai une vague idée au départ, et je sais très bien par exemple que si je commençais une gravure 5 minutes plus tôt ou 5 minutes plus tard qu'au moment où je l'ai débutée, elle serait probablement tout à fait différente. Donc en faisant une gravure, j'ai parfois aussi l'impression qu'il y en a 2 ou 10 autres que je ne fais pas ou que je ne ferai jamais.
Qui serait en parallèle en quelque sorte.
Oui, peut-être bien, mais donc, ce sont des gravures, c'est quelque chose que c'est une idée qui me vient à l'esprit comme ça, mais je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que cette gravure pourrait devenir. Ni même si gravure il y eut.
lorsqu'on écrit un roman, on crée des personnages. Et à un moment donné, il arrive que les personnages échappent au romancier. Mmh. Hein, ils attrapent une espèce de vie autonome. C'est peut-être pas vrai, hein, mais enfin, parfois, je crois que le romancier a l'impression que c'est plus tout à fait lui qui écrit, mais qu'il est comme ça dirigé par la fiction de ses personnages. Est-ce que tu as ce sentiment aussi au cours de la mise en route de ta gravure, qu'à un moment donné, elle pourrait aussi t'échapper, justement, et qu'elle pourrait se faire en partie elle-même
En ce qui me concerne, ça arrive presque à chaque fois. Mmh. Où il y a un moment donné... une partie de la gravure qui m'échappe et où les choses se font par elles-mêmes. Quelque chose se fait, ça vient de moi, bien sûr, puisque je l'ai fait. Mm-hmm. Mais ça ne venait pas, ça n'était pas prémédité, c'était pas mm-hmm. préconçu. Personnellement, je trouve ça relativement bien, parce que si on connaît exactement, si on sait exactement ce qu'on va faire, ce qu'on va voir, pourquoi faire le voyage.
Tout à fait.
Il n'y a pas de découverte. Alors évidemment, le problème est de savoir si ce qu'on a fait et qui s'est fait parallèlement donne une image satisfaisante. Si elle est satisfaisante et que je peux m'en contenter, je la garde. Mm-hmm. Si elle ne me plaît pas, je rince la plaque.
Et tu recommences.
L'encre sucrée s'en va, je reponce un peu.
Et tu recommences.
Et je recommence.
Est-ce que tu n'as pas aussi le sentiment, lorsque l'on crée, et je parle dans le sens général de la création, hein, ça peut être la musique, la gravure, le roman, la peinture, est-ce qu'il n'y a pas une prise de risque de la part de l'artiste? Est-ce que tout d'un coup, il ne se met pas dans une sorte de danger de transgresser des choses, de tomber dans des aventures qui sont certainement passionnantes, mais qui pourraient être dangereuses pour lui? Est-ce qu'il n'y a pas une prise de risque?
Écoute, on a déjà eu l'occasion de parler, ça. Mmh. On avait parlé de la préface de la seconde édition de L'âge d'homme de Michel Léris, oui. La tauromachie. Beaux-Arts, mmh. où il disait que la création artistique met en danger une mort.
Irais-tu jusque-là?
Non.
Non.
Non, pas ça, mais il est un fait évident que quand on crée, on se met dans un état de déséquilibre qui n'est pas toujours très confortable et que la réalisation d'une image doit permettre, d'une part, de voir quelque chose qui se fait, mais aussi de retrouver en soi l'équilibre initial qu'on a perdu en commençant à créer. Mmh. Mmh. Ça, je ressens quasiment à chaque fois. Mmh.
Et est-ce que tu as le sentiment aussi, maintenant que tu as une carrière assez longue, d'avoir affronté finalement le public, d'avoir affronté aussi la critique, est-ce que tu as le sentiment aussi d'avoir été compris généralement par les gens qui écrivaient sur toi?
Ça ne m'a jamais préoccupé, ça. Je crois que c'est relativement rare.
C'est vrai?
Écoute, c'est assez normal, hein, comme je ne comprends d'ailleurs pas toujours moi-même ce que je fais. Comment irais-je exiger des autres qu'ils puissent le faire? Mais de temps en temps, il y a...
Une perle.
Il y a une perle.
Un feu d'artifice.
Il y en a une parmi nous, d'ailleurs.
Bien. Et dans ta vie aussi, tu as d'une part la part de création. Donc tu es dans ton atelier, tu es seul avec toi-même, enfin, dans ton monde à toi, ton petit Babel. Et puis, il y a l'académie. Là, c'est... un lieu de partage avec mm-hmm. toute une bande de clampins qui sont plus ou moins doués, plus ou moins motivés. C'est dur de séparer, ou je dirais à la fois de fusionner le savoir que tu dois transférer et en même temps de subir justement cet éternel recommencement. Il faut toujours redire les mêmes choses et on n'est pas toujours sûr d'être compris. Et...
En fait... J'ai très vite compris, en quelques semaines de temps, qu'il fallait scinder les deux. Mmh. J'ai des profs à l'Académie de Bruxelles. Quand on entre à l'Académie, il y a trois petites marches. Quand je montais les trois petites marches, je devenais prof. Et je n'étais que prof. Mmh. J'entrais, je faisais mes périodes de 50 minutes, je ressortais, je descendais, et je n'étais plus prof. C'était
fini. Tu redevenais artiste.
Je redevenais artiste. Et ça, je crois qu'il faut, il faut pouvoir le scinder. Et il est évident que j'ai rencontré pas mal d'élèves en 21 ans de temps, comme quelques centaines. Il y en a peut-être une dizaine actuellement dont je sais qu'ils font ce pourquoi ils sont rentrés à l'académie. Et ça, je m'en rendais dès le premier jour, je savais ce dont je devrais m'occuper, un ou deux parfois, et ce qu'il faudrait occuper, c'est-à-dire la majorité. Mais on ne peut pas les remballer parce que si on les remballe, les écoles perdent des
subsides. Il n'y a plus de classe, oui, c'est ça,
le directeur. Le directeur se fâche. Enfin, bon, ça crée tout un tas de problèmes. Donc, on doit malheureusement s'occuper des gens qui n'ont pas tout à fait. Enfin, j'ai dû m'occuper des gens dont je savais pertinemment bien qu'ils finiraient leur carrière les mains dans le latex avec des rouleaux.
Dans autre chose.
Et encore. Ça c'est un peu dommage. Mais par contre, j'ai eu quand même quelques satisfactions, des gens qui se sont bien démerdés. Mais malheureusement, c'est pas la majorité.
Et comment vois-tu la gravure aujourd'hui? Est-ce que les choses ont changé par rapport au moment où tu as commencé? Je veux dire au niveau de la diffusion, au niveau de la réception, au niveau de quand je dis la diffusion, c'est est-ce que c'est toujours aussi difficile finalement de, à la fois d'exposer, d'être publié, de tirer ses gravures, de les vendre? Est-ce que tu as le sentiment que quelque chose a changé ou bien est-ce que tout
les
est toujours vendre, pareil?
Les vendre, en ce qui me concerne, c'est plus difficile, sauf en Suisse.
Ouais.
Mais ici en Belgique, je vends très très. Enfin, je n'ai jamais beaucoup vendu.
Est-ce que ça n'est pas une question aussi de culture nationale, je dirais, où certains pays sont quand même plus portés sur la gravure, sur l'estampe? Ici en Belgique, j'ai toujours l'impression, moi, quand on montre une exposition de gravure, qu'il faut à chaque fois réexpliquer. Tu vois, la pointe sèche, la cuvette, le bassin, l'aquatinte, la sérigraphie, la lithographie. À chaque fois, on recommande parce que les gens mélangent un tout petit peu, non? Tu n'as pas ce sentiment?
Oui, peut-être bien. Je dis que je ne me suis jamais fort préoccupé de ça. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des images. Et puis quand j'expose... Je considère ça un peu comme une responsabilité. J'essaie quand même de proposer quelque chose qui évolue par rapport à l'exposition précédente. Même si je suis toujours dans le même sillon.
On a 40 ans ici de gravure étalée, c'est ça? Ça fait.
Peut-être près, oui.
Oui, non, c'est ça.
Oui, à peu près. Comment dirais-je. J'avais perdu le fil de mes idées, là.
Excuse-moi.
Non, c'était pas comme ça que je voulais dire.
J'en suis sûr. On parlait du travail que tu souhaitais, en fait, qu'il évolue par rapport à l'exposition précédente.
Oui, exactement. Mais j'ai parfois essayé d'être influencé, très bizarrement. Ça, c'est pas du tout dans l'air du temps non plus. Je m'étais dit, je vais un peu m'inspirer de l'une ou l'autre personne, comme ça. Je faisais quelque chose un peu dans ce style-là. À la manière de, et puis ça ne me convenait pas du tout. Absolument pas, j'étais complètement perdu, et puis j'avais des difficultés à revenir dans mon sillon et me retrouver à l'aise. Donc moi, il faut vraiment que je reste dans mon truc à moi et essayer de pousser ça le plus loin possible.
Oui, autocadré.
Exactement.
Bon, finalement, avec un univers comme le tien, je vois pas pourquoi tu irais chercher nécessairement ailleurs.
Non, mais enfin, parfois, tu sais, parfois, je suis quand même assez régulièrement habité par le doute. J'ai imprimé des gravures, deux gravures, une hier et une aujourd'hui.
J'ai vu.
Que j'ai faites il y a plus d'un an. Il m'a dit, bon, ça va être moche, je ne vais pas les imprimer. Puis je me suis dit, finalement, ce serait bien quand même de les emmener en Suisse, si elles pouvaient être réussies. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Elles sont
belles. C'est pas trop mal, hein. C'est pas trop...
Non, ça va, tu peux être content.
C'est très bien.
Je t'en prie. Et on a parlé tout à l'heure de ton rapport avec l'écriture, et je voudrais aborder maintenant aussi quelque chose qui est quand même récurrent chez toi, qui est important et qui est intéressant, c'est ton rapport avec des gens qui écrivent, donc avec des romanciers, mais surtout avec des poètes. Je ne parle pas de moi. Je parle des gens avec qui tu as travaillé alors, et c'est un travail un peu différent.
En fait, l'illustration au départ, j'étais un peu sceptique. Et puis par après, je me suis dit, au fond, c'est l'occasion d'aller voir ailleurs si je n'y suis pas. Mm-hmm. Et ça m'a toujours enrichi de quelque chose. D'aller voir l'univers d'un autre, d'une autre personne, d'essayer de faire quelque chose, des images avec le monde d'une tierce personne, tout en restant moi-même. Alors parfois, je voyais un texte ou une partie de texte qui m'inspirait, et puis il y avait des fantasmes à moi qui venaient se greffer sur le texte, mm-hmm. et je mélangeais un peu les deux. En fait, quand je fais une illustration, des illustrations de livres maintenant, je lis le texte en diagonale pour voir un peu de quoi il retourne, puis je le relis un peu plus profondément, et puis je le relis une troisième fois en soulignant ce qui suscite des images. Et puis après, je relis ce que j'ai surligné pour voir ce qui est traduisible en images plastiques, mmh. d'une part, et aussi ce que je suis capable de faire. Mmh. Ça, ce sont les dernières sélections.
Mais sans vouloir te flatter, il y a quand même peu de choses que tu ne saches pas faire. Non ? Est-ce qu'il y a des choses plus difficiles ? Je veux dire, bon, au niveau animalier, bestiaire, on en parlait tout à l'heure, tu peux faire à peu près tous les animaux possibles imaginables,
oui,
avec un goût prononcé pour les oiseaux.
Hein ? En général, dans tout ce qu'on voit ici, tout ça, je ne me documente pas, je sors tout ça de ma mm-hmm. tête. Mm-hmm. Mais quand il s'agit d'un oiseau, il faut quand même que je me renseigne un peu. Mm-hmm. Un canari, ce n'est pas comme un sansonnet.
Non, c'est vrai, ça se saurait dire. Oui, il serait vexé d'ailleurs. Et non, mais je te connais, enfin, tu es extrêmement doué pour faire des avions, des tanks, des voitures, des. Enfin, un peu tout, quoi. Il n'y a rien qui te.
Des fusils.
Des fusils, oui, absolument. Et il n'y a rien, ça, qui, y a rien ça, qui te fait peur.
Ça, hein. C'est à cause de tes fantasmes.
Oui, 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 je sais. Enfin... Bien. Précisons que j'étais objecteur de conscience, donc ça doit être ça alors.
Et hein? Moi j'étais réformé.
Ah ben voilà. Ceci explique alors la masse de tanks et de fusils. Olivier ?
Les fusils, c'est assez récent, si je m'abuse. Dans le
Mélart ? Bon, ça fait.
Dans
notre échange de correspondance, ça fait 2-3 ans quand même.
Pas les fusils, hein ?
Ouais, j'ai eu un tas de. Non, enfin j'ai eu des militaires, hein.
Oui, il y avait des militaires, des avions,
des tanks, des fusils.
Il y a peut-être un retour aux armes au début, alors, on parlait.
Il met ça sur mon compte, mais en fait, c'est
oui.
une récurrence.
Non, c'est... J'essaie de correspondre à ces fantasmes. Enfin, je sais que ça me convenait bien aussi, finalement.
Je pense aussi, oui.
Et pourquoi ce tumulte guerrier, enfin, ces images guerrières?
Souvenirs d'enfance.
Souvenirs. Moi, je n'ai pas connu la guerre. Les souvenirs que j'ai de la guerre, ça correspondrait un petit peu à une espèce de mégot et d'odeur de tabac froid. Mais il est évident qu'enfant, voir des ponts détruits, des maisons démolies, des trucs qui ont cramé, c'est quand même impressionnant. Il y a pas. Dans mon enfance, il n'y avait quasiment plus un pont intact. Il y avait des ponts en planches qui remplaçaient les autres ponts, des maisons détruites. J'allais souvent avec mes parents dans la région de Tournai en 1946. Tournai, on se mettait sur une rigue et on avait un panorama de la ville. Hein. Il y avait.
Oui, il ne restait rien.
En dehors de la cathédrale, il n'y avait rien. Et c'est quand même impressionnant. Enfin, moi, ça m'avait. Et j'en ai toujours un souvenir très étrange.
Et ces images de ponts détruits reviennent régulièrement, je crois.
Oui, mais ça correspond aussi à des fantasmes personnels. Je suis très sujet à des vertiges. Alors je reproduis des situations où j'aimerais pas me retrouver, être coincé dans une montagne avec un pont qui est détruit, qui ne me permettrait pas de redescendre. Alors si tout ça est entouré d'eau en plus, là ça devient vraiment la catastrophe.
On en revient au déséquilibre dont tu parlais tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
Dans lequel l'artiste se met lui-même pour arriver à...
Probablement.
En pré-danger pour affronter mieux le danger. Mmh. Mmh.
Je mets un timbre, la boîte aux lettres, et ça part.
Est-ce qu'il a besoin de ça, l'artiste Roger Dedoux, de cette adrénaline, en quelque sorte, ce déséquilibre-là?
Ça doit certainement me faire plaisir quelque part.
Mais est-ce qu'il a besoin de... J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression qu'il a besoin de l'humour qui est présent dans tes paroles, dans ton travail, pour rétablir cet équilibre.
Sans doute que l'équilibre perdu a besoin de divers ingrédients pour être retrouvé.
Parce que comme ta technique de prédilection, c'est la gravure au sucre. Ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle en gravure un procédé de soulèvement. Donc on dessine avec une solution sucrée, on recouvre d'un vernis et on fait sauter ce vernis avec de l'eau tiède.
Moi j'utilise l'eau bouillante. Ouais. Enfin, il faut bien dire, tout à fait entre nous, qu'en dehors de la gravure au sucre, je ne sais rien faire d'autre. Hein.
Ah oui, non, mais c'est pas.
Je suis pas fichu d'affûter un burin ou de la manière noire, j'en ai fait 1 cm² et puis vengé le berceau. Très très beau.
L'outil qui s'appelle l'humour. Moi je voulais savoir si cet outil-là était pour toi un procédé de soulèvement également. Est-ce que c'est un procédé qui permet à l'acide d'agir? Ou bien est-ce que c'est l'acide lui-même?
Comment si j'ai bien compris, tu demandes si l'humour est un procédé de soulèvement.
Oui, c'est ce qu'il a dit, oui.
C'est ce qu'il a dit.
Qu'est-ce que tu veux aller répondre à une question pareille?
C'est pareil, c'est comme Archimède hein, qui disait si tu me trouves un point d'appui pour mettre le. Je soulève le monde. Alors c'est peut-être ça, l'humour ça pourrait soulever le monde, non?
Enfin, je sais que ça fait partie de ma petite panoplie, qu'il en intervient un peu dans chaque gravure, à des titres divers, à des intensités diverses. Mais c'est un procédé de soulèvement, je ne m'étais jamais posé la question, et je me vois bien en peine de te répondre quelque chose d'un peu cohérent et qui puisse avoir un certain crédit auprès de nos amis. Donc, je sors mon joker.
La gravure salée et sucrée.
T'as la chance de ne pas être diabétique.
Mais je le suis. Mais très légèrement, d'un diabète très maîtrisé. Enfin, je ne m'en vante pas. Hein. Ça fait partie de tous des effets secondaires de mes problèmes centraux.
Comment tu vois la suite, en fait? Très sereinement?
Elle est devant moi.
Oui, je m'en doute. Hein.
Ouais. Mmh. Oui, maintenant j'ai une vie qui est stabilisée, qui est bien stable. Je suis heureux, je suis serein. Mmh. Et finalement, les climats de bonheur et de sérénité sont très favorables à la création artistique. Mm-hmm. Oui, ouais. Mm-hmm. Je crois que si Van Gogh avait eu moins d'ennui, s'il avait eu une vie plus facile, il aurait fait des choses un peu plus extraordinaires.
Peut-être, oui. Mais enfin, c'est difficile de croire qu'il aurait pu avoir une vie facile, hein. Et oui. Par contre, on disait que Léon Spilliard avait commencé à devenir plus faible parce qu'il s'était marié, qu'il avait une fille et qu'il était parfaitement heureux, tu vois. Que du coup, il n'avait plus cette espèce de mécanique, justement, qui le motivait à courir les rues à Ostende la nuit. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Il y a aussi des explications a posteriori qui ne sont pas toujours non plus les meilleures.
Non, mais ce qu'il y a d'étrange avec Spilliard, c'est qu'il a une période... de production valable d'une dizaine d'années, un peu comme en sort finalement. Mm-hmm. En sort aussi une période, ils étaient tous les deux au standard.
Tous les deux au standard, mais l'un s'est marié et l'autre pas, tu vois. Yastiger, d'ailleurs, je lisais il n'y a pas tellement longtemps une anecdote assez amusante, parce que alors, c'est James Ensor qui, dans ses écrits, se souvient, et il dit, il y a un type comme ça, un type plus jeune comme ça, qui n'arrête pas de me suivre en rue, il m'emmerde, enfin, il me dérange et tout, et il s'appelle Spilliard, tu vois. Donc voilà, c'est pour la petite histoire, c'est assez amusant. Question ?
Oui, je vais parler des portraits dans le trait gravé de Roger de Witt, parce que je trouve qu'il est, il est fort présent.
Oui, mais comme, comme j'ai un travail qui est assez figuratif, parce qu'il me convient bien, le portrait, évidemment, est une, enfin, le portrait, la représentation humaine, disons, a une importance assez grande.
Plus d'hommes que de femmes, non ?
Oui.
Oui, hein.
En fait, il y a très peu de femmes. Mm-hmm.
Est-ce que c'est un simple prétexte à montrer des gueules ou des tronches ?
Non, ça c'est plutôt, comment dirais-je, l'ustensile que je privilégie pour créer des climats. Et puis, il m'a toujours semblé que l'homme, en fait, moi, quand j'étais adolescent, j'ai toujours été un peu béni par cette idée-là, sort d'une maison, affronte le monde, va gagner de l'argent, rentre au nez pour nourrir sa petite famille. Et c'est une... bon, maintenant, c'est un peu changé avec l'égalité de la femme, qui est très bien. Mais j'ai trouvé que ce rôle, quand même, de sortir d'une maison pour affronter le monde, gagner de l'argent, était quand même une activité assez ingrate, assez difficile. Ça m'est toujours apparu comme étant assez dur. À tort ou à raison, d'ailleurs. Hein. Tout ce que je raconte, je ne prétends pas que ce soit la vérité. Mais c'est ma vérité à moi, c'est comme ça que je pense, comme ça que je fonctionne, que je comprends les choses, que je comprends le monde, et que je le traduis de temps en temps avec plus ou moins de bonheur ou de malheur dans mes gravures.
Ça l'est toujours d'ailleurs, hein, prendre le tram à Bruxelles ou le bus à Charleroi, c'est déjà une aventure. Hein. Et donc je peux comprendre que c'est vrai que sortir pour les gagner comme ça son pain, ça ressemble presque à l'homme de Cro-Magnon sortant avec son pauvre épieu pour affronter un mammouth, là. Il y a un peu de ça.
Donc il vient au port, c'est juste en face, juste entre vous deux, là, il y a la plus grande gravure qui s'appelle Ulysse. Moi j'aimerais bien qu'on en parle un peu parce que je trouve qu'elle est mystérieuse et jolie.
En fait,
c'est la plus abstraite.
Je me suis rendu compte que cette gravure par après me faisait un peu penser à Joyce. Et comme j'avais lu 2-3 bouquins de Joyce à l'époque, je l'ai appelé Ulysse, du titre d'un de ses romans. Je ne sais pas. Vraiment casser la tête pour trouver... En fait, je ne me casse jamais beaucoup la tête pour trouver des titres.
Tu les donnes a posteriori ?
En général, oui. Mm-hmm. En général, oui.
Et tu ne réunis pas un aréopage de critiques, enfin d'esprit fort à la manière surréaliste pour en discuter et pour les fabriquer ?
Non.
Non.
Non, c'est vrai, je pourrais...
Pas de chapeau non plus, enfin, dans lequel tu pêcherais des noms, pas de dictionnaire ouvert enfin, à la page, n'importe laquelle pour dire. Non, tout
non,
simple.
J'ai pas, non, parfois je me suis dit que je pourrais peut-être rassembler une ou deux personnes, mais je trouve ça un peu prétentieux. Mm-hmm. Mais c'est peut-être une erreur. Hein.
Je sais pas, tu pourrais téléphoner, tu appelles Bénédicte et tu lui dis quel est le premier mot auquel tu penses. Et puis voilà, ça pourrait donner un titre de gravure.
Je lui téléphone et le premier mot auquel elle pense, je serai emmerdeur.
Bah, ça dépend de l'heure. Hein.
Allô.
Tu as droit à un deuxième mot.
Enfin, je plaisante.
peut passer la parole à la...
Oui,
au public.
Bien sûr. Que pour ceux qui veulent, on n'a pas eu encore l'occasion vraiment de regarder très près ce qu'il y a sur la Terre. Je sais pas si vous avez le temps, donc on peut, si ça vous dit, faire un tour de table et laisser les questions arriver sur telle ou telle gravure. Si ça vous dit.
Moi, je vois tes enveloppes, tes lettres sur Facebook. Je ne vois pas l'intérieur. Et je pense au facteur, si c'est un qui doit souffrir le martyr, si ça m'intéresse.
Non, mais écoute, les adresses sont toujours très bien libellées.
Oui, mais puisque c'est important, puisque le temps, il n'y a pas droit.
Il y a une lettre à l'intérieur.
Il y a une lettre. Il y a toujours une lettre.
Je ne prends pas liste de moi.
Tu as raison.
C'est la tentation des acteurs.
Merci.
Mais en fait, il y en a. J'en ai écrit un peu plus de 2000.
Plus de 2000 maintenant.
Un peu plus de 2000, oui. Et je crois qu'il y en a. Il doit y en avoir 3-4 qui ne sont pas arrivés. Une que j'ai envoyée au Maroc, qui n'est pas arrivée.
Moi, j'en ai. Il y en a une que tu m'avais envoyée de France ou de France.
Oui, une carte postale, oui, qui n'est pas arrivée. Alors, une autre, un ami français qui habitait à Montreuil.
Mais il t'arrive de te tromper de code postal aussi.
Oui. Hein. Mais alors, la poste rectifie.
Elles sont censées revenir, oui.
La poste rectifie, parfois, ou alors parfois, oui. Parfois, il rectifie, puis il y a un autre type qui barre quand même l'adresse et qui me la renvoie. Voilà, enfin, il y a parfois des choses un peu curieuses, très bizarres.
Vous avez parlé d'enveloppe envoyée à des amis.
Oui.
Vous êtes arrivé d'envoyer une enveloppe de ce type-là à quelqu'un vis-à-vis de qui vous avez des griefs ou...
Non.
Ça peut venir.
Donc, il y a toujours un message positif.
Il y a toujours un message positif. Enfin, je suppose.
De toute façon, au prix du timbre maintenant, je veux dire, et vu ce que tu vas faire, tu vas pas envoyer une belle enveloppe à quelqu'un que tu n'aimerais pas. Hein?
Non.
Non. Hein? C'est ce qui me semble aussi.
D'ailleurs, même avant, où le timbre était relativement accessible, je ne faisais pas.
C'est déjà pas une bonne idée. Hein.
Non, c'est pas un bon plan.